est heureuse de vous recevoir ce matin encore. Il est 5h et la Suisse s'éveille.
Les petits matins, Georges Pop.
Petit matin du mercredi 12 juin 2013, temps bien ensoleillé en Valais centrale aujourd'hui, me dit-on. Ciel voilé sur le bassin lémanique, généralement assez ensoleillé au nord des Alpes, malgré tout, avec des passages nuageux. Le long du Jura et sur le nord du plateau, ces passages nuageux seront plus fréquents et assez denses par moments. Il fera un maximum de 23 à 25 degrés, un régime de bise balayera les régions de plaine demain. Je vous le promets, il fera beau. L'actualité ce matin, des incidents sont toujours en cours au cœur de la nuit à Istanbul, en Turquie, alors que le Premier ministre Recep Tayyip Erdogan a fait parler la force hier, mardi, contre les manifestants, faisant évacuer à deux reprises la place Taksim à Istanbul, prévenant qu'il n'y aurait plus de tolérance envers leur mouvement, le mouvement des manifestants. Des incidents se poursuivent d'ailleurs. Hier, la police s'est également intervenue à Ankara pour disperser à grand renfort de gaz lacrymogène et de canons à eau quelques 5000 manifestants. Le gouvernement grec annonce immédiatement et mis immédiatement en application la fermeture des chaînes de la télévision publique RT, engageant par surprise une épreuve de force inédite avec les syndicats sous la pression de ses bailleurs de fonds internationaux. Vers 23h locales hier, les chaînes d'RT ont cessé d'émettre et les écrans sont devenus noirs, la police ayant neutralisé, selon une source syndicale, le principal émetteur qui est situé près d'Athènes. Cette fermeture a suscité une rupture dans la solidarité au sein de la coalition gouvernementale dirigée par le Premier ministre conservateur Antonis Samara. Deux des trois partis de la coalition ont désapprouvé la fermeture. Elles annoncent, ces formations, qu'elles ne voteront pas cette mesure lorsque le décret sera présenté au Parlement pour validation. Les chaînes RT vont être remplacées par une nouvelle institution qui sera beaucoup plus claire au niveau des comptes. Les employés licenciés seront indemnisés et pourront postuler dans la nouvelle entité. Au-delà du choc, tout le monde s'interroge sur les raisons de cette fermeture. À Athènes, correspondance d'Angélique Kourounis.
La fermeture de la télévision nationale grecque intervient dans le cadre de l'assainissement des comptes et des finances grecques au moment où la Troïka, les bailleurs de fonds du pays, sont en visite officielle en Grèce. Les radios et télévisions privées ont cessé d'émettre les bulletins d'information en signe de solidarité depuis cette annonce, une annonce que les syndicats condamnent fermement. Tout le monde savait en Grèce qu'une restructuration de cette télévision nationale qui emploie 2700 personnes, dont 600 journalistes, devait se faire, mais pas dans ces conditions. Un grand panneau devant lequel on peut lire « Le fascisme ne passera pas à bas la dictature » a été déroulé devant le bâtiment de la télé et tout le monde maintenant se demande quelle institution déficitaire va suivre, les écoles, les universités, les hôpitaux. C'est vraiment la question du moment. Angélique Kourounis, RTS Info, Athènes.
Des heurts ont opposé hier des partisans en Égypte du président islamiste Mohamed Morsi à des opposants devant le ministère de la Culture au Caire, où artistes et intellectuels observent un sit-in pour réclamer le limogeage du ministre accusé d'islamiser le secteur de la culture. Le doyen de l'humanité, le japonais Jiroemon Kimura, qui avait fêté mi-avril ses 116 ans, est mort hier mardi de vieillesse. Il avait obtenu une inscription Guinness des records et les félicitations du premier ministre nippon Shinzo Abe. Monsieur Kimura était la plus vieille personne du monde, hommes et femmes confondus. Des incertitudes, voire des menaces, continuent de peser sur le règlement du conflit fiscal des banques suisses avec les États-Unis. À la veille, hier, des débats aujourd'hui du Conseil des États, les groupes parlementaires se montraient déçus par les informations obtenues sur le contenu. La Commission de l'économie de la Chambre des cantons recommande à une voix près de refuser la loi. Les banques, qui se sont toutes exprimées en faveur de cet accord avec les États-Unis lors des auditions en commission, ont quant à elles officiellement approuvé cet accord. Ces grandes banques et les banques cantonales sont officiellement sur la même longueur d'onde, même si les intérêts sont parfois divergents parmi les banques cantonales, notamment Sylvie Belzer.
Parmi les banques cantonales, tous les établissements ne sont évidemment pas également concernés par ce problème et tous ne veulent pas en payer les mêmes conséquences. Mais pour l'heure, elles s'expriment d'une seule voix en faveur d'une solution globale par l'intermédiaire de l'Union des banques cantonales. Ça évite les déclarations à l'emporte-pièce et le sentiment de division. En réalité, la situation est un peu plus complexe. Ce sont la Banque cantonale de Zurich et la Banque cantonale vaudoise qui donnent le la dans ce dossier. Les deux établissements dont la taille du bilan est la plus importante et qui encourent donc le plus de risques, des banques qui ont également repris des clients de l'UBS par le biais d'importeurs d'affaires. Sur les 24 banques cantonales membres de l'association fêtière, la BCZ représente à elle seule plus d'un cinquième du total de l'ensemble, près de 100 succursales, près de 80 pour la BCV, contre par exemple seulement 4 pour celle d'Appenzell et 29 pour la banque cantonale de Genève. C'est peu en comparaison. BCZ et BCV veulent cette Lex USA, les autres n'ont guère le choix, bon gré mal gré, elles doivent s'aligner.
Les députés vaudois sont entrés en matière hier sur l'assainissement de la caisse de pension de l'État de Vaud. Le plan proposé vise à atteindre un taux de couverture de 80%, alors qu'il était de 64,4% à la fin 2012. Le personnel fera des sacrifices et le canton versera près d'1,5 milliard de francs. Sport, cyclisme, le français Arnaud Demare s'est imposé au sprint à Bouox, terme de la 4e étape du Tour de Suisse. Le Suisse Mathias Franck, arrivé dans le peloton, conserve lui son maillot jaune de leader de l'épreuve. Et puis en football, le portier du FC Sion, Kevin Fickenscher, s'est engagé pour les deux prochaines saisons avec le FC Lausanne Sport. Son arrivée coïncide avec le départ d'Anthony Favre, qui a porté le maillot vaudois durant 8 saisons. 5h30. Oui, 5h06 à vrai dire, à l'heure où je vous parle. C'est sport matin. En cyclisme, le Tour de Suisse se dispute donc cette semaine, vous l'avez entendu. À la fin de l'étape, la priorité est mise sur la récupération. Et pour ne pas passer par la case dopage, de nombreuses techniques d'entraînement et de récupération sont mises au point, testées, étudiées aussi. L'une d'elles, eh bien, c'est la cryothérapie ou la cryostimulation. Cryo, ça vient du grec, ça veut dire froid. Eh bien, Patrick Delétro a testé un bain d'azote à moins 120 degrés.
Et pendant 3 minutes, une expérience intéressante, vraiment accessible à tous, un sauna à l'envers en fait, qui fera partie sans doute dans les années à venir des offres de base des spas et centres de bien-être, mais aussi des techniques de récupération pour les sportifs. Avant de détailler les effets bénéfiques de cette technique, séance pratique à l'intérieur d'une camionnette, un appareil est relié à des bouteilles d'azote, un modèle qui va évoluer et passer au tout fermé et tout électrique. Là, nous sommes en compagnie de Samuel Kenyard, directeur de Cryontal, jeune société qui développe ce produit.
Quand vous entendez le clac, c'est l'azote qui arrive, c'est là où ça va.
Que fait-on concrètement là ?
Ben là, l'opérateur est en train de préparer la séance avec la baisse de température dans l'enceinte, hein, qui est autour de moins 130 degrés, avec une adaptation en fait un petit peu du slider de façon à garantir un froid qui remonte au moins jusqu'aux épaules.
On peut demander son impression à la personne qui est à l'intérieur, s'il peut encore parler. Vous n'êtes pas trop gelé là ?
Ça va, c'est correct. On a l'impression de changer de t-shirt quand on est en plein hiver dans le froid, mais il n'y a pas trop de problème. C'est supportable. On frissonne vraiment un petit peu, mais c'est vraiment supportable sans aucun souci. Si on va dans l'eau froide, là c'est beaucoup plus dur. Mais on peut vraiment supporter la chose corps en entier, quoi. Parce que d'habitude, on a un peu de mal au niveau du ventre, mais là... ça marche.
Donc, c'est supportable, mais à quoi ça sert vraiment ? Romain Bouzigon est doctorant à l'Université de Franche-Comté à Besançon dans l'unité recherche-formation en sport.
Quand on est au froid, le sang qui est dans les extrémités va passer vers les territoires intérieurs du corps pour aller autour des organes, pour se protéger, pour essayer de perdre le moins de chaleur possible. En envoyant plus de sang, il va stimuler des barorécepteurs qui sont placés juste à la sortie du cœur, dans une artère, et ces barorécepteurs vont faire diminuer la fréquence cardiaque. Donc là, on a un premier mécanisme de récupération. Après, tout entraînement, tout exercice physique va induire une inflammation. Donc, la cryostimulation va diminuer ce phénomène inflammatoire. Donc, il faut savoir que l'inflammation, elle est plus ou moins bénéfique à l'entraînement. Mais lorsqu'on va vouloir récupérer rapidement, il va falloir essayer de couper ces effets inflammatoires rapidement. La cryostimulation permet ça.
Et le tout induit un certain bien-être utile à la récupération. Fred Grapp, maître de conférence à l'Université de Franche-Comté, est aussi entraîneur de l'équipe cycliste française FDJ qui a testé la cryothérapie durant le dernier Tour d'Espagne.
Vous savez, ce qui est important dans une course par étapes, c'est de faire en sorte que l'athlète récupère le plus rapidement possible pour le lendemain. Et ce que l'on sait, c'est que la récupération, elle est de deux ordres. Elle est d'un ordre physiologique, mais également au niveau mental. C'est-à-dire que si vous arrivez à faire en sorte que l'athlète soit plus détendu, soit capable d'avoir un meilleur sommeil, de se sentir mieux dans sa peau, j'ai envie de dire, et on sait que derrière, on aura des aspects très, très positifs. Et normalement, le lendemain, ça va dans le bon sens. Et c'est quelque part un petit peu ce que l'on retrouve.
Reste que les techniques de récupération par le froid ou de simple utilisation du froid pour le bien-être, comme dans les pays nordiques ou de l'Est, où il n'est pas rare de voir des gens se baigner tous les jours, même dans de l'eau très froide, ne datent pas d'hier. Elles sont d'ailleurs variées et utiles aussi pour l'échauffement. Ça va du bain froid aux vêtements thermorégulateurs, en passant même par la glace pilée ingérée par des athlètes australiens lors des Jeux Olympiques de Pékin, et donc à la cryothérapie que les cyclistes commencent vraiment à apprécier.
5h et bientôt 10 minutes à l'écoute de la première, ce sont les petits matins. Nous allons parler sculpture. Je vais vous lire un petit texte qui annonce ou qui ouvre en quelque sorte une petite brochure que j'ai sous les yeux. Voici ce texte. Ce qu'il y a de bien avec Sylvie Morayon, c'est qu'elle est toujours en mouvement, qu'elle regarde, qu'elle observe, qu'elle constate, qu'elle s'approche et qu'elle s'imprègne, elle touche, elle parle, elle contacte, elle commence et continue, elle recommence et insiste, elle veut, elle fait, elle y croit et elle a raison. Elle est une artiste, bien sûr, mais elle est avant tout une personne qui n'oublie jamais d'écouter respirer le monde qui l'entoure et dont elle sait faire partie. Voilà, ce petit mot, il est signé Philippe Dubat, journaliste, écrivain. Philippe Dubat qui a été journaliste à la Radio Suisse Romande il y a plus de 20 ans, il y a même une trentaine d'années. Philippe Dubat signe donc ce panégyrique en quelque sorte. Bonjour Sylvie Morayon.
Mais bonjour.
Sylvie Morayon, donc sculptrice. Je vous ai demandé, c'est assez rigolo, je vous ai demandé est-ce que vous êtes bien sûr, parce que moi je ne l'étais pas, que sculptrice est le féminin de sculpteur. Vous m'avez dit que vous ne le savez pas.
Non, effectivement, je le sais pas, et dans la mesure où je me considère pas forcément comme sculptrice, sculpteur, mais j'ai plutôt l'impression que c'est difficile de donner un nom sur le type d'activité que je peux mener. Alors certains disent c'est plasticien. Au départ, je suis peintre, et puis les activités ont évolué au fur et à mesure des projets.
Alors, on dit sculptrice parce que c'est facile à comprendre, hein, par tout le monde, mais c'est vrai que vous travaillez la matière, vous travaillez les matières pour les façonner selon votre volonté, pour en faire des objets plus ou moins figuratifs, plus ou moins abstraits. Et je lis également qu'une grande partie de votre travail est actuellement orientée vers l'élaboration et la réalisation de projets destinés à des espaces privés au public, c'est-à-dire que vous avez en quelque sorte, je ne sais pas si on dit des clients dans votre langage, des partenaires, des mandants, comment est-ce que vous définissez... Oui, je vous mets en difficulté, je vous vois hausser les épaules. Comment est-ce qu'on définit les gens qui viennent vers vous et puis qui vous demandent de faire un travail pour eux, finalement?
Ah, c'est difficile de dire que ce sont des clients.
Restez près du micro.
Oui, parfois difficile d'imaginer que ce sont des clients. Alors, on dit qu'ils mandatent. Hein,
oui. Parce qu'en définitive, vous discutez quand même avec eux pour voir un petit peu ce qu'ils attendent de vous.
Alors oui, dans certains cas, pas partout. Souvent, les projets qui me sont confiés démarrent d'une idée ou d'une blague ou tout à coup il y a quelque chose qui surgit, il y a un contact qui aboutit et qui démarre à la suite d'une conversation. Parfois, alors, ça m'est arrivé de voir arriver quelqu'un qui me pose la question « Est-ce que vous seriez en mesure de faire quelque chose ?» C'était le cas du parking Morpeau où une personne une personne m'a abordé. Alors, sur le moment, j'étais pas tout à fait sûre de pouvoir remplir une mission, mais l'idée a fait son chemin et en collaboration, en fait, avec la personne qui me posait la question.
Alors, on va faire un peu connaissance, hein, Sylvie Morayon, si vous voulez bien. Vous habitez actuellement du côté de Montblesson, si je ne m'abuse, sur les Hauts-de-Lausanne, on dira simplement. Enfance, plus près du lac Léman. Hein, voilà. Une enfance bercée, pas tout à fait par le clapotis du lac Léman, mais pas loin.
Tout à fait. C'est une enfance aubonnoise. Alors c'est plutôt les vignes, hein, un tout petit peu en retrait du lac. Et puis ensuite j'ai migré dans les Hauts-de-Lausanne, dans les franges lausannoises, dans la campagne.
À quel moment avez-vous senti ce besoin de triturer, de modeler, de pétrir la matière, de devenir sculptrice en quelque sorte, ou plasticienne?
Alors là, c'est l'occasion qui fait le larron, en définitive. Pendant un certain temps, il m'avait été demandé, et ce que j'ai accepté avec plaisir, d'observer les chantiers, et en particulier celui du M2 de Tridel. Et dans ces chantiers...
Donc le métro lausannois. Je le précise, hein, parce que nos auditeurs sont romans, même alémaniques, donc tout le monde ne sait pas exactement de quoi il s'agit. Non, mais vous avez raison, je suis juste là, moi, pour encadrer.
Alors, en observant ces chantiers, on est toujours en contact avec la matière. Et on se rend compte qu'on peut pas toujours l'interpréter du point de vue de la peinture. Et en particulier, il y avait quelques copeaux de rails qui, dans le chantier du M2, c'est-à-dire du métro lausannois, qui traînaient par terre. C'était des copeaux magnifiques.
Ça ressemblait à quoi, ces copeaux de rail?
Alors vraiment des petits copeaux avec des reflets bleutés sous l'effet de la chaleur, puisque c'est une machine qui les faisait au fur et à mesure. Il fallait rainurer le rail.
Les polir en quelque sorte.
Non, on rainure le rail sur lequel s'appuie le pneu. En fonction des déclivités, c'est pour favoriser l'adhérence du pneu. Si bien que ces rainures sont faites sur place et ça donne lieu à des copeaux magnifiques. Alors j'étais rentrée chez moi avec ces copeaux dans la poche, quelques copeaux me disant mais avec ça on peut faire quelque chose de magnifique. Et je me suis arrêtée devant le garage qui est tout près de chez moi. J'ai interpellé le garagiste qui est mécanicien, qui a formé beaucoup d'apprentis. J'ai dit mais comment est-ce que je fais avec ça?
Pour souder,
pour les mettre ensemble. Et il m'a dit, écoute, c'est tout simple, je t'apprends. Voilà, alors c'est comme ça que ça a démarré. Et c'est aussi comme ça qu'ont démarré les autres projets, parce que donc il s'agit de Pierre Comte, et c'est un homme qui sait tout faire, qui maîtrise tout, et avec qui tout à coup, tout était possible. Les projets en plus grande dimension étaient tout à coup réalisables. Donc ça donnait lieu à la possibilité de réaliser.
C'est ainsi que vous, Sylvie Morayon, peintre à l'origine, vous passez à la sculpture et vous apprenez passablement de choses qui relèvent de la mécanique, de la soudure, du chantier. Ça a été difficile?
Alors non, parce que ça se fait pas à pas, et ça se fait en fonction de l'idée. C'est-à-dire que il y a une idée, on a l'intuition que ça peut jouer, qu'on peut la réaliser. Et finalement, je crois que j'ai toujours été accompagnée pour pouvoir la réaliser. C'est comme ça que l'apprentissage se fait.
Ce qui est assez amusant, en tout cas, en vous regardant, excusez-moi, vous êtes une femme comme ça assez fine, a priori, on vous imagine assez mal en train de souder derrière un masque de soudeur, peut-être mettre un bleu de travail, que sais-je. On a du mal à faire la transition par le regard, en tout cas.
Pour moi, ça n'a pas été difficile parce que c'est vrai que dans les chaudiers aussi, on a toujours un casque, on a toujours des protections contre la poussière. Alors finalement, la transition pour moi, n'était pas compliquée.
Vous m'avez raconté tout à l'heure, mais on ne va pas en parler maintenant parce qu'on va observer une pause musicale qui sera suivie de décalage horaire. Vous m'avez aussi raconté que vous avez récupéré une tonne de molasse du chantier du M2. Vous allez me raconter ça tout à l'heure, si vous êtes d'accord. Il est 5h17 et 30 secondes.
Sois sans pitié, ne le laisse plus entrer, ne te laisse pas charmer, ne leur ouvre pas la porte. Empoisonné, sans leurs sourires, leurs mots, leurs promesses, leurs étés sont toujours lettres mortes. Mais fais une exception pour moi. Mais fais une exception pour moi. Sois sans pitié. Aucune humanité ne mérite ces cinglés, le noir qui les habite. Les hommes sont nés. Le mensonge à la bouche, ils abîment ce qu'ils touchent, qu'ils crèvent, qu'on en finisse. Mais fais une exception pour moi. Mais fais une exception pour moi. Sincérité, jamais ne les étouffe. Pleure chaud que tu souffres, pleure chaud que tu jouisses. Déterminé, sois le pour te sauver, sois le pour t'échapper à leur mal, leur griffe. Mais fais une exception pour moi. Mais fais une exception pour moi.
Stéphane Eicher, l'exception tirée de son récent album qui est intitulé L'Envolée à 5h20.
Les petits matins.
Petit matin à l'heure de décalage horaire, nous mettons le cap sur l'Afrique, sur le Togo, sur Lomé. Bonjour Christelle Mensa. Ah ben voilà, nous avons perdu Christelle Mensa. C'est pas grave. On essaye, je regarde la régie, hein. Vous savez, tout ça se passe en direct. Puis c'est l'occasion, bien sûr, de rappeler que décalage horaire, c'est toujours en direct. Le but, c'est de rejoindre des correspondants qui sont parfois assez bien décalés sur les fuseaux horaires. Et aujourd'hui, donc, nous étions en contact avec Christelle Mensa pour un décalage horaire en direct du Togo. Et nous allions parler, je sais pas, si on a réussi à la repêcher. Oui, magnifique. Bonjour Christelle Mensa.
Bonjour,
en direct donc de Lomé. On est heureux de vous retrouver. Ben, c'est vrai que les communications sont parfois un petit peu difficiles. C'est au Togo, m'avez-vous appris? Ah, décidément, je crois que nous aurons passablement de mal. Alors, on a un petit numéro de réserve, hein. On a un petit numéro de réserve. On peut essayer l'autre numéro parce que Christelle Mensa m'expliquait qu'au Togo, ces dernières heures, il y a passablement de coupures d'électricité. Donc, il est particulièrement difficile d'avoir une conversation téléphonique. Mais enfin, voilà. Si on n'y arrive pas, eh bien, on y renonce. Mais on fait encore une petite tentative, si c'est possible, car nous allons parler du fait que c'est au Togo qu'il faut se rendre en Afrique pour rencontrer le pionnier en matière d'insémination artificielle et de fécondation in vitro dans cette sous-région donc ouest-africaine, au grand bonheur des Togolais mais aussi de leurs voisins qui se bousculent pour les consultations avec une seule idée en tête pour ces couples, devenir enfin parents. Alors Christelle Mensa, je crois qu'on a réussi à vous récupérer, alors vous allez nous expliquer comment ça se fait que c'est le Togo qui est pionnier en matière d'insémination artificielle dans votre région.
Oui, en fait, il s'agit d'une petite clinique qui s'appelle la clinique Biassa, qui a été créée en 1984 par trois médecins, l'association de trois médecins, donc le docteur Moïse Fiaggio, qui est gynécologue obstétricien et qui est le pionnier justement dans ce domaine, avec le docteur Jemima Prince Agbodjan, qui est pédiatre, et le docteur Robert Fiaggio, qui était médecin légiste et qui était son papa. Alors au fil des ans, le cabinet est devenu un cabinet vraiment incontournable à Lomé, dans différents domaines, mais il est avant tout pionnier dans le domaine, il donne la possibilité pour les couples infertiles de bénéficier d'une assistance médicale à la procréation. Alors, l'un de ses fondateurs dont je vous parlais tout de suite, c'est Moïse Fiaggio. Il a à peu près la soixantaine passée. Il est très respecté à Lomé. Il est diplômé de la faculté de médecine de Lille et c'est un ancien interne à Tourcoing en France. Et il a été donc le premier au Togo à équiper sa clinique d'un appareil d'échographie en 1984. Et également, c'est lui qui a réalisé la première fécondation in vitro du pays, Georges.
Oui, vous nous en dites un peu plus peut-être sur cette clinique Biassa et son fondateur. Clinique qui apparemment encore de beaux jours devant elle, hein, m'avez-vous dit?
Oui, tout à fait. Et cela malgré des tarifs très onéreux pour les Togolais, mais certains arrivent quand même à y aller. Par exemple, pour une FIV ou fécondation in vitro, il faut compter 700 000 francs CFA. Ça fait à peu près 1300 francs suisses. Et pour trois tentatives, pardon, il faut compter 1 500 000 francs CFA. Ça fait à peu près 2830 francs suisses. Et par exemple, pour une IAC, comprenez une insémination artificielle avec le sperme du conjoint de la dame, il faut compter 75 000 francs CFA et 100 000 francs CFA pour une tentative avec un donneur. Donc 100 000 francs CFA, ça fait à peu près 188 francs suisses. Et c'est un projet en fait d'extension de la clinique qui est en ce moment en cours à Lomé pour mettre la clinique aux normes internationales. Et de nouveaux services seront bientôt disponibles, comme par exemple une unité de réanimation polyvalente, un service d'imagerie performant et une unité de fécondation in vitro pouvant prendre en charge le risque viral pour les patients vivant avec le VIH. Alors, en effet, le gynécologue obstétricien a lancé en 2009 un plan de développement de plus de 2,5 milliards de francs CFA pour la moderniser, et il a été financé d'abord sur fonds propres et il a aussi bénéficié d'un prêt bancaire, et ce projet vient de bénéficier tout dernièrement d'un apport de 800 millions de francs CFA du fonds pour la santé en Afrique, financé par la Banque africaine de développement, la BAD, l'agence de développement allemande, on dit DEG, et la fondation Bill et Melinda Gates.
Très bien, je vous remercie infiniment Christelle Mensa de toutes ces informations. Puis j'espère que les pannes d'électricité qui nous ont valu quelques petits déboires ce matin ne se poursuivront pas du côté de Lomé au Togo. Merci beaucoup et à bientôt. Je vous souhaite une bonne fin de nuit du côté de Lomé.
Il joue avec les mots, il joue avec le vrai et le faux. Venez enregistrer les décodeurs de l'été au Studio 15 de la RTS à Lausanne dès midi et demi. Le 20 juin avec Nouria Gorité, le 25 juin avec Christophe Kekeis et le 26 juin avec Fanny Smith. L'entrée est libre mais les réservations obligatoires au 058 236 18 58. Les décodeurs du lundi au vendredi dès 11h30 sur La Première et à tout moment sur lapremière.ch.
Nous sommes avec Sylvie Morayon, elle est sculptrice, plasticienne. Nous parlions tout à l'heure du fait, Sylvie Morayon, que vous avez commencé par la peinture et puis qu'un jour vous êtes tombée sur des copeaux de rail sur le chantier du métro lausannois, le métro M2, puis vous vous êtes dit, tiens, c'est joli, je peux en faire quelque chose. Vous êtes donc passée chez un garagiste qui vous a appris à souder. Oui. C'est devenu un ami, je crois.
Ah, mais disons que c'est un ami depuis plus de 30 ans.
Ah.
C'est un voisin, c'est un ami. Et puis je suppose que c'est aussi les liens privilégiés qu'on avait qui faisaient que l'idée est venue comme ça. Et en définitive, elle a pu s'étendre à d'autres projets et dans une très bonne entente et dans une très bonne compréhension mutuelle.
Alors, c'est ainsi que vous êtes passé de la peinture à la sculpture ou à la plastique. Autre petite, je ne sais pas si on peut parler d'anecdote, mais en tout cas, autre épisode assez cocasse, singulier. Vous avez fait stocker dans votre jardin, donc dans la maison familiale, dans le jardin de la maison familiale, une tonne de molasses,
oui,
issue là aussi du tunnelier des tunnels du métro M2.
Exactement.
Une tonne de molasses,
oui.
Dites-moi. Quelle drôle d'idée.
Non, c'est pas une drôle l'idée, parce que cette molasse, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc, on sait qu'elle est presque constitutive de certains bâtiments lausannois.
Et la cathédrale aussi.
Et c'est pas tout à fait la même.
Elle
a été importée. Mais disons que c'est la pierre de Lausanne par excellence. En plus de ça, elle a des qualités extraordinaires, puisque les haveuses, donc ces grosses machines de chantier, quand elles creusent, elles arrivent à imprimer des dessins, des griffures extraordinaires. Donc pour moi, c'était d'un intérêt capital de pouvoir en prélever. Et de pouvoir restituer ces traces, c'était devenu une sorte de projet qui me tenait à cœur. Mais pour ça, il fallait obtenir la molasse. Il fallait la réduire en poudre et la reconstituer pour pouvoir rétablir ces traces. Alors voilà pourquoi j'ai eu accès à cette tonne de molasse qui m'a été livrée. Et cette molasse, elle vient pratiquement directement de sous la cathédrale. Elle a été prélevée dans ce chantier alors que les haveuses passaient sous la cathédrale.
Magnifique, dites-moi. On vous a un peu traité de cinglé, m'avez-vous dit?
Oui, alors, effectivement. Mais c'est pas la première fois et ça n'a pas été la dernière.
Ouais. Mais ça vous vexe pas d'ailleurs, hein, vous
êtes
habitué.
Non, ça vexe pas, ça me stimule plutôt. Ouais. Je me dis que autant abonder dans ce sens-là. Et puis, Et puis je risque de me tromper, mais ce sera pas grave. Donc,
c'est sous quelle forme une tonne de molasse dans son jardin familial?
Alors, ce sont des cailloux, a priori. Ce sont des cailloux, mais je profitais aussi des pluies hein, pour pouvoir la dissoudre un peu.
Ouais, c'est friable, la molasse.
C'est friable. Donc, je profitais du ruissellement et puis après, du marteau. Ensuite, il faut la réduire un tout petit peu plus en poudre. Donc, on la passe au crible. Ensuite, à la passoire. Puis, il faut quand même la désinfecter parce qu'elle a des micro-organismes qui pourraient se développer. Donc, je sais qu'à la place du pain que j'aurais dû mettre dans le four, j'ai mis beaucoup de molasse.
Bon. Bah écoutez, on va voir après le journal ce que vous faites de tout cela. Je rappelle que vous êtes sculptrice et qu'une grande partie de votre travail, Sylvie Moreillon, une grande partie de votre travail est actuellement orientée vers l'élaboration et la réalisation de projets destinés à des espaces privés ou publics. D'ailleurs, on va parler de certains de ces projets tout à l'heure. Il est 5h30, nous accueillons Valérie Droux pour le journal de 5h30 sur la première. Bonjour Valérie.
Bonjour Georges.
C'est à vous, après l'indicatif.
Même pas la peine d'y penser. Le PLR ne veut pas du projet de loi du Conseil fédéral pour régler le conflit fiscal avec les États-Unis. Le parti a donné son mot d'ordre hier en fin d'après-midi. Pas question d'endosser la responsabilité d'une proposition dont il ignore tout. Les conseillers aux États PLR vont donc voter sans surprise contre l'entrée en matière ce matin au Conseil des États. Karine Keller-Souter, conseillère aux États PLR Saint-Galloise.
Le groupe PLR veut une solution entre la Suisse et les États-Unis. Puis il maintient sa position que le Conseil fédéral a les déjà aujourd'hui de fournir les données nécessaires aux États-Unis pour pouvoir remplir le programme qui est en question. Il l'a déjà fait en avril 2012 parce qu'il y a des banques qui sont dans une procédure pénale aux États-Unis. Nous estimons bon qu'il le fasse aussi maintenant et nous le demandons aussi parce que nous estimons aussi que c'est le Conseil fédéral lui seul qui connaît le programme en détail qui peut juger s'il est nécessaire et puis s'il est urgent.
Alors il s'agit pour lui d'activer l'article 271.
Oui, absolument. Et donc, c'est le Conseil fédéral qui peut donner la permission à une banque de donner les informations nécessaires pour les autorités américaines.
Des propos recueillis par Esther Coco. La séance du Conseil des États débute à 8h. Et puis, le journal du matin prend ses quartiers dans les pas perdus pour ce vote aux États. Émission spéciale des 7h. Simon Matadora et ses invités. Et puis, en ligne directe aussi, sera au Palais fédéral pour débattre avec parlementaires et auditeurs dès 8h. La Grèce tire la prise de sa radio-télévision publique. Les chaînes d'ERT ont cessé d'émettre à 22h heure suisse. Le gouvernement en a décidé ainsi, l'ERT constituant selon lui un cas exceptionnel d'absence de transparence et de dépenses incroyables. Le service public sera rouvert, mais sous une autre forme, a expliqué le porte-parole du gouvernement grec hier soir. Plus de 2600 salariés, ils recevront une indemnité. Ils pourront postuler à un emploi dans la nouvelle structure. Les syndicats ont condamné cette décision, appelant pour certains à une grève immédiate de soutien dans les médias privés cette fois-ci. L'ERT fait partie des nombreux organismes de l'État grec à devoir être restructurés ou fusionnés selon l'accord conclu entre Athènes et ses bailleurs de fonds. Le calme est revenu sur la place Taksim d'Istanbul cette nuit après 20 heures d'affrontements entre policiers et manifestants. Les forces de l'ordre étaient déjà intervenues hier matin pour faire évacuer cette place, puis encore dans la journée. Et le premier ministre turc Recep Tayyip Erdogan a prévenu, dans le même temps, il n'y aura plus aucune tolérance envers le mouvement contestataire. Aujourd'hui doit avoir lieu une rencontre entre le chef du gouvernement et les représentants du mouvement. On revient sur le sondage d'hier matin. Le Jura bernois préfère donc rester bernois. On rappelle les chiffres, 24% seulement des citoyens seraient prêts à se lancer dans un projet de nouveau canton avec le Jura, 49% choisiraient le statu quo. Et pour le maire autonomiste de Moutier, Maxime Zuber, rien n'est pourtant joué à 5 mois du vote. Il l'a dit à Alexandra Richard.
L'enseignement qu'on peut tirer, c'est que d'une part, les campagnes qui ont été engagées de part et d'autre n'ont pas encore produit d'effet. Et que d'autre part, sans doute que les sondés savent qu'à fin novembre, une question leur sera posée, mais il ne fait alors aucun doute qu'ils n'ont pas compris les enjeux liés à cette question.
Pourtant, selon ce sondage, ils seraient 96% à avoir déjà saisi ces enjeux.
Non, je ne crois pas. Ils sont 96% à avoir saisi qu'une question institutionnelle serait posée. En revanche, quelle question serait posée, avec quelles conséquences et quel processus initié en cas de oui, ça je crois que ça leur échappe complètement. Ce qui explique le grand nombre d'indécis, mais aussi le fait que les gens ont répondu à une question qui n'aurait été pas posée.
Les députés vaudois sont entrés en matière hier sur l'assainissement de la caisse de pension de l'État de Vaud. Le plan proposé, atteindre un taux de couverture de 80% avec des sacrifices du personnel et un versement du canton de 1,44 milliard de francs. Ce taux de couverture était de 64,4% à la fin de l'année passée. Les débats se poursuivront la semaine prochaine. Basketball, Union Neuchâtel a mis fin au suspense. Il reste en Ligue Nationale A la saison prochaine. Le vainqueur de la dernière Coupe de Suisse menaçait de s'auto-reléguer à cause de procédures ouvertes contre lui cette saison et d'amendes dont il avait écopé. Les Neuchâtelois refusaient d'être, selon leurs termes, la vache à lait de la Ligue Nationale. Soulagement pour le directeur de la Ligue Nationale, Gabriel Gisler.
C'est en effet une très bonne nouvelle pour plusieurs raisons. La première, effectivement, d'avoir un championnat à nombre équipes impaires, c'est jamais bien. À 7, c'est encore moins bien. Deuxième raison, perdre un club comme Union Neuchâtel après la reconstruction qui a été faite ces trois dernières années, respectivement les performances sportives de la dernière saison, c'était vraiment un gâchis. Donc on est très heureux et soulagé. Je peux comprendre qu'un club, dès le moment où vous sanctionnez sur des éléments plus subjectifs qu'objectif par rapport à un règlement qui serait bafoué, je peux comprendre qu'il peut y avoir des réactions. Quant à moi, si vous me posez la question par rapport à Neuchâtel, leur réaction était un tout petit peu exagérée par rapport à la sentence.
Gabriel Gisler, interrogé par Stéphane Trisconi. En cyclisme, quatrième étape du Tour de Suisse, hier, remportée par le Français Arnaud Demare au sprint à Bouox. Le Suisse Mathias Franck est toujours premier au général. Et l'étape du jour, 178 km entre Bouox et Leugern en Argovie. Enfin, football, l'heure du mercato a sonné. Le gardien du FC Sion, Kevin Fickenscher, va pour deux saisons au Lausanne Sport. Et Grasshopper a engagé l'attaquant Johan von Lanten pour une année minimum.
C'était le journal de Valérie Droux. Prochain rendez-vous de l'actualité à 6h Touron. Tout de suite la météo, Stéphanie Collère.
Temps bien ensoleillé en Valais centrale, ciel voilé sur le bassin lémanique, généralement assez ensoleillé au nord des Alpes avec des passages nuageux. Le long du Jura et sur le nord du plateau, ces passages nuageux seront plus fréquents et assez denses par moments. Il fera un maximum de 23 à 25 degrés. Un régime de brise balayera les régions de plaine. Demain, temps ensoleillé. En cours d'après-midi, une dégradation orageuse arrivera par l'ouest. Elle touchera le Jura et les Préalpes en premier. Ensuite, elle s'étendra lentement aux autres régions dans le courant de la soirée. Les pluies se poursuivront pendant la nuit. Maximum 26 à 29 degrés. Il faudra compter avec des rafales à proximité des foyers orageux.
Nous sommes avec Sylvie Moreillon. Elle est sculptrice, elle est plasticienne. Une grande partie de son travail est actuellement orientée vers l'élaboration et la réalisation de projets destinés à des espaces privés ou publics.
Les petits matins. Georges Pop.
J'aurais pu d'ailleurs ajouter des espaces privés au public s'adaptant à la configuration des lieux et à l'attente du mandant. Voilà, ça c'est le texte complet. Sylvie Moreillon parlait tout à l'heure, donc pour ceux qui nous rejoignent encore une fois, du fait que vous étiez peintre à l'origine. Donc enfance du côté d'Aubonne, aujourd'hui vous vivez à Montblesson sur les Hauts de Lausanne, vous y avez votre atelier. Vous avez stocké dans votre jardin une tonne, ça me fait sourire évidemment, une tonne de molasses. Issu du creusement des tunnels du métro M2 à Lausanne. Et puis, vous êtes venu à la sculpture, en définitive, en découvrant, des raclures de rails. On peut dire que c'est des raclures. Hein.
Tout à fait.
Que vous avez trouvé joli, puis que vous avez envie d'assembler, puis vous avez appris avec un ami garagiste, un ami mécanicien, à faire de la soudure. Mais au-delà de la soudure, vous avez appris et vous avez même inventé, hein, dans le cas de la molasse, par exemple, il a fallu la réduire en poudre, et vous avez inventé vous-même une recette inédite pour pouvoir reconstituer cette molasse.
Oui, elle a duré passablement d'années. Hein, c'est un projet qui s'est étalé. Alors je dirais que dans cette histoire, j'ai appris mes échecs. Et il y en a eu beaucoup. Pour finalement, petit à petit, arriver à obtenir une texture qui révèle cette molasse telle que je la voyais. Alors, dans cette histoire, effectivement, c'était une belle leçon d'humilité. Mmh. Parce qu'on n'arrive jamais à obtenir directement le résultat escompté.
Bon, enfin, vous êtes venu tout à l'heure avec un cornet en plastique, comme on dit chez nous. C'est vrai que si on dit cornet en France, on a l'air bizarre, mais si on dit un cornet en plastique. Et puis dedans, il y a une sorte de coquillage. Hein, vous avez reconstitué une sorte de coquillage fusiforme, comme un cornet de glace un petit peu dans lesquels on met ses crèmes glacées. Et donc, en mollasse, extrêmement élégant, extrêmement beau. C'est un objet qu'on peut mettre dans un salon, par exemple, ou dans une salle d'attente, si on est médecin. Vous avez réussi finalement à trouver la bonne recette.
Ah oui, alors finalement, c'était un peu une victoire sur soi, parce qu'effectivement, pendant longtemps, déjà, ne serait-ce que pour la prise d'empreintes, pour arriver à capter ces rides qui sont dans les tunnels ou dans ces creuses, dans ces galeries, c'était pas facile. Il fallait trouver la technique. Et puis ensuite, comme c'était la première phase, il fallait aller à la deuxième, il s'agissait de reconstituer cette mollasse. Et là, j'ai trouvé que c'était compliqué. Alors, à un moment donné, on se dit, est-ce qu'il faut arrêter à mi-chemin? Et puis, finalement, j'y avais passé trop de temps, investi trop d'efforts pour renoncer. C'était devenu un but en soi.
Ce qui est assez cocasse, c'est que vous prenez parfois des matériaux assez bruts et vous en faites quelque chose d'assez fin, d'assez subtil, notamment pour l'intérieur de certains bâtiments. On va peut-être y revenir tout à l'heure, mais j'aimerais préciser, Sylvie Morayon, que notre rencontre, nous la devons à nos amis du service vaudois de transfusion. Ce sont eux, notamment Massimo Benzoni, qui est le chargé de communication du service, notamment chargé de communication du service de transfusion, qui m'a dit qu'il faut absolument faire la connaissance de Sylvie Morayon, qui est une sculptrice, une plasticienne tout à fait extraordinaire. Et simplement l'occasion de rappeler que le 23 mai dernier, la municipalité d'Épalinges, donc au nord de Lausanne, et le service vaudois de transfusion ont invité la population au centre d'Épalinges pour découvrir votre dernière œuvre. Et votre dernière œuvre, je vais vous laisser tout simplement en parler, car elle a un rapport avec le don du sang.
Exactement. Alors, là aussi, il s'agissait d'une conversation qui a abouti à un projet. Le centre de transfusion sanguine a un très joli logo. Il représente un cœur, et si on regarde de plus près, ce cœur a une deuxième lecture. On voit deux personnages qui sont en train de danser. Un personnage rouge, un personnage blanc, l'un qui donne...
Le donneur, le receveur.
Le donneur et le receveur, voilà. Et en observant ce logo, je m'étais dit, mais tiens, on pourrait très bien le transformer en 3D, c'est-à-dire faire un logo en 3D. Auparavant, depuis quelques années, on jalonne la région de Verchier-les-Blancs à Épalinges, effectivement, de sculptures. C'est une sorte de, ce sont des générations d'enfants qui grandissent et qui s'adaptent justement au lieu, en suivant la ligne du bus 64. Donc, en arrivant à Épalinges, on pouvait imaginer que sur le même modèle, on pouvait faire ces deux êtres qui s'entrent dans une danse. Mmh. C'est comme ça que ça s'est fait, et on se disait rouge, blanc, ce sont aussi les couleurs des palages. C'était là le moyen de réunir la commune des Palinges, le centre de transfusion sanguine, et il fallait aussi trouver un endroit bien visible pour amener les gens à la transfusion.
Hein, ça tombe bien, vous qui récupériez les copeaux de rail du métro M2, du chantier, il s'est installé à la sortie du terminus du métro M2.
Exactement.
En plein milieu d'un rond-point, comme on dit.
Oui.
Voilà. Et c'est très visible. Et effectivement, c'est une sorte de balise, on le disait hier avec Simon Mathé-Doré, lorsqu'on a passé le relais. C'est une sorte de balise pour le centre de transfusion, qu'il faut-il le rappeler, comme tous les centres de transfusion, le vaudois comme tous les autres, ils sauvent des vies.
Alors justement, à ce propos, pour moi, c'était très important de réaliser ce projet. On est quatre dans la famille. Sur les quatre, il y en a deux qui ont été transfusés. Et ça arrive toujours quand on s'y attend le moins. Ça arrive dans des situations de détresse. Il nous faut absolument ce sang. Et je dois dire qu'il y a deux êtres dans ma famille qui me sont très chers. Et ils sont toujours là. Et c'est grâce à ça. Alors des fois, plutôt que de prendre...
Vous aviez l'impression de payer une petite dette en quelque sorte ?
Certainement. Et puis j'étais contente de pouvoir encore donner mon sang. C'est-à-dire que je crois que c'est un bienfait. Enfin, c'est un c'est un avantage si on a encore la possibilité de donner son sang. Et plutôt que des fois de prendre son café au bistrot, oui, on a la possibilité de le prendre au centre de transfusion sanguine.
Pour un très bon café, c'est vrai.
Voilà. Et puis on a le lit croissant, voilà, les sandwichs.
Donc, on parle de ce centre de transfusion, mais tous les centres de transfusion de Suisse font un excellent travail. D'ailleurs, ils sont liés entre eux. Juste encore deux mots sur cette sculpture. Elle est quoi? Elle est métallique?
Alors, ce sont des barres d'acier plein de 40 mm de diamètre. Alors, c'était justement pour nous un défi parce qu'on n'avait jamais été jusqu'à 40, on était allé jusqu'à 30. Donc, ça sous-entend que la sculpture est lourde, elle fait plus de 120 kilos. Mmh. Et pour la modeler au chalumeau et au levier, c'était quand même un défi pour nous. Il faut quand même,
j'imagine bien,
passablement de temps pour...
On va signaler une exposition encore, parce que le temps file.
Oui. Hein.
Et puis, évidemment, il y aurait tellement de choses à dire parce que vous travaillez aussi bien dans le, j'allais pas dire dans le gigantesque, mais en tout cas dans le grand, mais aussi dans le petit. Vous travaillez dans divers volumes. Hein. Vous aimez bien aussi bricoler des toutes petites choses. mais bon, je pense que les gens auront l'occasion de découvrir votre travail sur le site internet, sur votre site internet que nous mettrons en lien sur notre page. Exposition à la Grange à Joutan, donc c'est tout près de Lausanne, Joutan. Ça s'appelle Trac et Trace, du 31 août au 22 décembre. On a encore le temps, mais enfin, voilà, l'occasion fait le larron. Que verra-t-on à cette exposition à Joutan, donc à partir du 31 août?
Alors, c'est justement le résultat de cette mollasse, de cette... Trac à la mollasse et de tout ce qui va autour. Et alors c'est enfin l'achèvement de ce projet un peu fou. Je me réjouis de pouvoir accoucher entre guillemets.
Alors Sylvie Morellon, vous travaillez également, on l'a dit, pour des collectivités publiques, pour des villes, mais aussi pour des établissements privés. J'ai vu que vous faisiez aussi, je ne sais plus pour quel établissement, de grands panneaux de verre. Enfin, ça ressemble à du verre. Je ne sais pas ce que c'est. C'est de grands panneaux transparents avec des sortes de boulons et des câbles. Ça pend d'un plafond. C'est très élégant, c'est très fin, mais vous partez là aussi de quelque chose de très brut. C'est quoi ce je ne sais pas si on peut parler de sculpture, enfin ces objets.
Alors, il s'agit d'un montage. Il fallait remplir le vide entre les volets d'escalier dans une usine électrique. Alors, pour rappel, il fallait trouver quelque chose qui coïncide avec ça. Donc, ce sont des rondelles de câbles électriques. Il y en a à peu près 400, qui ont été découpés à 1 mm d'épaisseur et qui sont noyés dans une résine bleue. Et
c'est très beau en tout cas.
Ça symbolise la cascade, hein, la cascade. Et on passe d'un caisson à un autre avec ces rondelles de câbles, comme s'il s'agissait des bulles de la cascade.
Magnifique. C'est accessible au public ou
Ça pourrait être accessible au public. Alors, il s'agit du bâtiment de la CEFA. C'est la CEFA, les services électriques
Je vous mets en difficulté,
oui,
là.
C'est à Aubonne. Les services électriques.
D'accord.
Et puis, c'est plus ou moins ouvert sur demande.
D'accord.
Voilà.
Très bien. Il est 5h47. Je vous propose une seconde pause musicale. Après quoi, on trouve votre invité téléphone. Vous nous dites qui c'est déjà?
Alors, il s'agit de Jean-Luc Jacquier, qui est directeur pour l'entreprise d'Eneria.
Ouais.
Et c'est lui qui m'a beaucoup tendu la perche, parce que, bien sûr, il faut des complicités pour entrer dans certains chantiers.
Ouais.
Alors, c'est à lui que je dois une fière chandelle.
Eh bien, nous allons faire sa rencontre et sa connaissance dans quelques minutes.
Depended on you like a baby. Oh, one thing I know, I love you. Yes, I love you like a baby. fell, cause she looked like a baby. Two lovers' ways, I was blind, cause I just had a mind like a baby. When you're just a flirt, and I had to be hurt just like a baby. Playing with me like a baby. Well, you can bet that someday I'll forget just like a baby.
Voilà, Wanda Jackson, Like a Baby, une interprétation récente de la vénérable Wanda Jackson. Elle a 75 ans quand même, mais quelle belle carrière, accompagnée ici par Jack White, ex White Stripes, autant de précisions apportées par François Piton, notre programmateur de la semaine à 6h-10.
Les petits matins.
Voilà, c'est l'heure de réveil matin et à la demande de notre invité Sylvie Morayon, sculptrice, plasticienne, eh bien nous faisons sonner notre réveil matin chez monsieur Jean-Luc Jacquier. Bonjour Jean-Luc Jacquier.
Bonjour Georges, bonjour Sylvie.
Merci de nous rejoindre. Directeur de l'entreprise Deneria SA, entreprise travaux publics et bâtiments. Elle a pris le soin, Sylvie Morayon, de me préciser place de l'Europe 7003 Lausanne. Voyez si elle est précise.
Ah oui, c'est précis.
Jean-Luc Jacquier, grâce à vous, nous disait Sylvie Morayon, eh bien, elle a eu accès à toute une série de matériaux hein, dont qu'elle avait envie de manipuler, de triturer, de mouler. De forger. C'est vrai qu'on parlait tout à l'heure de ces copeaux de rails du métro M2 de Lausanne, mais aussi de ces tonnes de molasses qu'elle a fait installer dans son jardin. Elle vous surprend parfois par ses demandes.
Alors écoutez, au départ beaucoup, aujourd'hui plus du tout, parce qu'aujourd'hui, ben, dès le moment où on fait la connaissance de Sylvie, hein, vous l'avez relevé tout à l'heure, quelqu'un qui a beaucoup de finesse, beaucoup d'humanité, qui va jusqu'au bout des choses. Aujourd'hui, elle ne me surprend plus. Mais il y a quelques années, c'est vrai, je me suis dit, tiens, qu'est-ce qu'une femme comme Sylvie va faire dans notre milieu rude, austère, ce monde d'hommes bruyants et poussiéreux? Eh bien, aujourd'hui, elle ne me surprend plus. Elle a réussi à nous capter, à nous captiver. Et finalement, aujourd'hui, ce qu'elle fait, c'est extraordinaire.
Oui, c'est vrai qu'elle soude, elle fait toute une série de travaux, de chantiers, on peut le dire. Et puis, elle n'a rien d'un garçon manqué, on peut le dire, si vous me passez cette expression un peu directe.
Je suis tout à fait d'accord avec vous.
Alors, parlons de son travail, parce que finalement, c'est vrai que c'est un petit peu difficile d'exprimer, de dire comment sont les choses et de les décrire. Alors, quel regard vous portez, vous, Jean-Luc Jacquier, sur le travail de Sylvie Morayon?
Écoutez, d'abord, je crois que son travail d'artiste, je dirais, parce que finalement, c'est un grand, elle n'est pas que plasticienne et sculptrice, ce qu'elle a fait, son œuvre, pour le peu que je la connaisse, n'aurait jamais pu être fait si elle n'avait pas cette notion d'humanité, de fidélité, et elle arrive à transformer tout et n'importe quoi une œuvre extraordinaire. Mmh. Moi-même, je ne suis pas seulement, je dirais, son ami ou la personne qui l'a aidé dans certains moments, je suis aussi, je dirais, un client, j'ai des œuvres
chez moi. Un mandant, j'ai vu qu'elle aime dire les mandants.
Un mandant, voilà. Eh bien, je dois dire que quand mes amis viennent à la maison, ils me disent, mais c'est extraordinaire qui t'a fait ça, et ben voilà, c'est Sylvie, je crois que elle est
votre impressionnante. L'entreprise Deneria, donc votre entreprise de travaux publics et bâtiments, vous avez fait appel à ses services?
Alors oui,
on pour a votre décoration.
Fait... Oui, tout à fait, tout à fait. Alors, et bien évidemment, du fait qu'on a pas mal œuvré sur le métro à Lausanne, eh bien, il nous fallait une finalement un petit sauvetage, une trace de ce qu'on avait fait, parce qu'aujourd'hui on ne voit plus grand chose. Et elle nous a fait un tableau, une trace de molasse à l'huile.
Voilà, molasse dont on t'expliquait qu'elle a en quelque sorte de reconstituer une recette, hein, parce que elle prend la molasse brute, ensuite elle la transforme en poudre, mais ensuite il faut pouvoir reconstituer tout ça. Je crois que ça vous a pris passablement de temps, hein, Sylvie Morayon, pour trouver la bonne recette, hein, pour que voilà, ça soit minéral et pas seulement de la poudre. Écoutez, c'était un plaisir de vous recevoir, Jean-Luc Jacquier. Vous avez 30 secondes pour dire ce que vous avez envie de dire.
D'accord. Écoutez, merci. Sylvie, moi, ce que je veux te dire simplement, c'est que merci pour ton amitié, puis ton grand sens, je dirais, du respect que tu as à reproduire tout ce qu'on a fait. Hein. Et puis, ce que j'aimerais te dire, c'est que nous t'attendons, et ça, c'est un scoop, pour de nouvelles aventures sur un autre type de chantier, des travaux souterrains aussi, en dessous du CEPET, avec l'équipe de Deneria. Mais ça, c'est pour dans quelques jours.
Oh, mais c'est magnifique. C'est magnifique. Je me réjouis beaucoup.
Je vous souhaite une très, très belle journée. Et je vous remercie de ce bref, mais tendre passage, en définitive. Merci beaucoup et excellente journée.
À vous aussi. Merci.
Au revoir.
Vous êtes propriétaire ou vous souhaitez le devenir ? À chaque construction, rénovation, modification, se pose la question de son autorisation. Faut-il demander un permis de construire pour tout ? Quelles sont les règles en la matière ? On en parle, se penche sur le problème et répond à vos questions que vous pouvez d'ores et déjà poser sur rts.ch/guichet. La construction et ses autorisations, c'est ce mercredi 12 juin à 8h30 sur La Première et à tout moment sur lapremière.ch.
Sylvie Morayon, sculptrice, plasticienne, merci d'avoir partagé cette heure avec nous, Sylvie Morayon. On vous rend à vos travaux, parfois herculéens. On vous rend à Montblesson et à votre atelier.
Merci infiniment en tout cas pour cette invitation, j'ai eu beaucoup de plaisir.
C'était un plaisir partagé, je puis vous l'assurer. Merci beaucoup.
Take me outside, sit in the green garden. Nobody out there, but it's okay now. Bathe in the sunlight, don't mind if rain falls. Take me outside, sit in the green garden. Wings of a butterfly, high as a treetop, down again. Putting my bag down, taking my shoes off, walking the carpet, a green velvet. Sunlight.
Voilà, c'est Green Garden, Laura Mvula, tiré du premier album de cette jeune artiste britannique intitulé Sing to the Moon. Je vous signale passablement de don du sang aujourd'hui, 5 collectes, à Versoix, à la salle communale route de Saint-Loup, 12 de 14h30 à 20h, à Bulle, à l'espace Gruyère, rue de Vevey, de 14h à 20h30, à Moutier, à la sociétale de 15h30 à 20h, à Épalinges, bien sûr, au terminus des croisettes du métro M2 de 7h30 à 16h, à Yverdon, à la maison de paroisse, rue Pestalozzi 6, de 13h à 19h. Demain, les petits matins recevront Madame Emmanuelle Robert, secrétaire générale de la FEDEVACO, fédération de diverses associations, sur le thème notamment de l'accès à l'eau. Très intéressant. En principe, je crois que nous avons un petit problème avec notre centrale routière. Nous ne recevons pas ces communiqués, mais on me signale depuis la régie que, apparemment, sur les routes de Suisse et de Suisse romande, il n'y a aucun problème. Nous allons donc pouvoir maintenant passer directement à la météo avec Stéphanie Koller.
Temps bien ensoleillé en Valais centrale, ciel voilé sur le bassin lémanique, généralement assez ensoleillé au nord des Alpes avec des passages nuageux. Le long du Jura et sur le nord du plateau, ces passages nuageux seront plus fréquents et assez denses par moments. Il fera un maximum de 23 à 25 degrés. Un régime de brise balayera les régions de plaine. Demain, temps ensoleillé. En cours d'après-midi, une dégradation orageuse arrivera par l'ouest. Elle touchera le Jura et les Préalpes en premier. Ensuite, elle s'étendra lentement aux autres régions dans le cours.